Radio Okapi.
Le journal Pascal Masserita.
À la une de l'actualité, réaction du président d'Ensemble pour la République à l'intérimement des membres de la CENI par l'Assemblée nationale. Moïse Katumbi-Tchapwe fait remarquer au chef de l'État, Félix Tshisekedi, que cautionner les irrégularités qui ont émaillé cet événement conduira le pays vers un nouveau cycle de désordre. Rencontre ce mercredi à Kinshasa entre le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, et les représentants des Ndés et des Hutus. Au menu, l'implication de ces communautés dans la recherche de la paix au Nord Kivu. Notre invitée, c'est la coordonnatrice du réseau des femmes citoyennes engagées de Beni. Maître Toudi Diané Toumba revient sur les acquis de la journée internationale de la femme rurale décrétée le 15 octobre. Madame, Messieurs, bonsoir. Désignation des membres de la CENI. Moïse Katumbi-Tchapwe demande au président Félix Tshisekedi Tshilombo de rejeter la liste entérinée par l'Assemblée nationale. Le président d'Ensemble pour la République affirme que cautionner les irrégularités qui ont émaillé cet entérinement conduira le pays vers un nouveau cycle de désordre. Dans une lettre adressée au chef de l'État congolais, l'ancien gouverneur du Katanga demande au chef de l'État imposer aux responsables de l'Union sacrée le respect des textes afin, dit-il, de ne pas y laisser prospérer la corruption, le débauchage et l'achat de conscience contre lesquels il a engagé une lutte sans merci. Depuis Lubumbashi, Jean Gandou nous fait l'économie de cette correspondance.
Dans cette lettre, Moïse Katumbi commence par rappeler au président Félix Tshisekedi que le 23 octobre 2020, il a engagé des consultations nationales afin de trouver des solutions aux problèmes du pays, dont les trois premières urgences furent le rétablissement de la paix, l'organisation des élections crédibles dans le délai constitutionnel et le renforcement de l'état de droit. Il lui rappelle qu'en tant qu'opposition républicaine, ils ont accepté d'accompagner le président de la République dans cette voie en lui transmettant leur cahier de charges qui réprimait l'ensemble de leurs propositions visant le redressement du pays. Dans le souci d'éviter au pays un nouveau chaos électoral, nous avions proposé un arsenal de dispositions visant à crédibiliser la CENI en mettant l'accent sur la désignation du président de la CENI par consensus sur le ou les candidats proposés par les confessions religieuses, écrit Moïse Katumbi, et d'ajouter, je le cite, « Alors que nous nous approchons des prochaines échéances électorales, les mêmes méthodes dénoncées hier pour imposer à la tête de la CENI un homme politique controversé ont repris. La contestation a gagné les institutions. » Fin de citation. J'en appelle à votre sagesse afin de ne pas jeter le pays dans de nouveau déchirement aux conséquences funestes pour l'ensemble du peuple congolais, affirme-t-il. Enfin, Moïse Katumbi précise qu'ils ne sont pas à la recherche des postes. Par contre, ils demeurent soucieux de préserver les valeurs de la République, au rang desquelles figure le consensus qui demeure le ferment de la cohésion nationale. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
L'implication de toutes les communautés du Nord Kivu est indispensable dans la recherche de la paix dans cette province. Le sujet a été évoqué lors d'une séance de travail tenue ce matin au quartier général de la MONUSCO à Itex, Kinshasa, entre le secrétaire général des Nations Unies et le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, et les représentants des communautés Ndé et Hutu de la province. Annonce faite par le président de la communauté Ndé de Kinshasa que je vous propose d'écouter.
Nous sommes venus effectivement à rencontrer le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, pour parler de la situation générale de notre province, la province du Nord Kivu, et pour parler, nous comme communauté beaucoup plus représentative du Nord Kivu, de la façon dont nous devons vivre ensemble, de la façon dont nous devons participer ensemble au développement de cette province du Nord Kivu, longtemps meurtrie. Lui dire que nous devons tous travailler ensemble. L'implication des communautés est très capitale pour que tout le monde participe à l'avènement de la paix et à l'avènement d'un développement durable dans cette province.
Ces propos ont été confirmés par la suite par le président de la communauté Hutu. Samuel Rumashana a ajouté que le processus dans lequel leur communauté locale s'engage ira dans la durée et nécessitera à coup sûr l'accompagnement de la MONUSCO, des Nations Unies et de l'État congolais. Écoutez-le.
nous avons exprimé au secrétaire général adjoint des Nations Unies notre volonté de dialoguer pour mieux vivre ensemble chez nous au Nord Kivu. Nous lui avons aussi exprimé notre souhait de voir la MONUSCO et les Nations Unies nous accompagner pour mieux réussir ce processus. Mais c'est un processus qui certainement prendra du temps. C'est pourquoi nous avons besoin de l'accompagnement de la MONUSCO et de l'État congolais. Ça doit prendre du temps, non pas parce que nous voulons que ça prenne du temps, c'est parce qu'effectivement, pour résoudre un problème, il faut réfléchir si toutes les voies et si tous les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour aboutir à une solution pérenne.
Des propos ont été recueillis par Honoré Missenga Kalala. L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce mercredi ici à Kinshasa d'une table ronde de 48 heures sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves commis en RDC. Cette rencontre est organisée par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Les assises de Kinshasa vont aboutir à une politique de réparation. Un reportage de Billy Van Lutumba.
La cérémonie s'est ouverte sous un fond d'émotion avec le récit de plaidoyer d'une représentante des victimes des violences sexuelles qui a laissé toute assistance dans un émoi un peu plus indescriptible. Tassiana Mukanere.
Certaines femmes sont devenues inaptes à plusieurs activités après leur viol. C'est le cas de Marie qui s'est retrouvée depuis paralysée des membres supérieurs. Il a été violée pour la première fois à l'âge de 13 ans par un nombre d'hommes qu'elle n'a jamais su. C'est aussi le cas d'Annie qui a son âme. Il avait 65 ans et avec une sonde pour évacuer ses selles et ses
irées. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, depuis l'étranger, a recommandé fermement au chef de l'État d'insister auprès des Nations Unies pour l'établissement d'un tribunal international et aussi...
Les chambres spécialisées mixtes ont envie de juger les crimes internationaux les plus graves commis en RDC.
En sa qualité de championne des préventions des violences sexuelles désignée par les Nations Unies, Denise Nyakeru a plaidé pour l'instauration par l'État congolais d'un programme de réparation administrative.
Il est plus qu'urgent d'assurer les réparations justes et adéquates aux survivants. Ce n'est pas un appel à l'aide que je lance, mais un cri d'alerte. C'est la voix des survivantes que je veux faire entendre ici devant vous. Elles ne demandent rien d'autre que justice soit faite, que les préjudices subis par elles soient réparés.
Signalons que cette table ronde devra définir les pistes et supports nécessaires qui permettront la création de ce Fonds national de réparation.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir. Après le déraillement du train marchandise de la SNCC qui transportait des minerais à destination de Lobito en Angola lundi dernier à Kanzenze dans la province du Lualaba, les travaux se poursuivent pour relever les wagons et voir s'il n'y a pas de corps et rétablir le trafic ferroviaire. Le directeur d'exploitation de la SNCC affirme que cet accident a coûté la vie à 9 passagers clandestins. Marc Manyanga a été joint par Jean Gandou.
Continuons à relever les wagons. S'il y en a un dixième ou un onzième, on ne manquera pas de les dire parce que tout se fait dans la transparence. Il y a la Croix-Rouge qui est là-bas.
Les travaux sont en train de se poursuivre. La direction générale est en train de déployer des efforts pour que nous puissions rendre véritablement viable sur le plan opérationnel cette voie de Lobito. Pensons que le trafic va reprendre dans moins de 48 heures.
Sur le plan matériel, il y a plus ou moins 70 mètres de voie et les ensembles et sous-ensembles essentiels de la locomotive sont intacts. Quelques problèmes au niveau de la tôlerie, mais l'expertise complète pour une locomotive qui déraille, ça s'est fait dans les ateliers. Les problèmes de transport clandestin sur le train, c'est une pratique que nous devons tous proscrire. Il faut que les riverains déraillent comprennent qu'ils ont intérêt à respecter la police des chemins de fer pour que nous ne puissions plus connaître la situation comme celle que nous sommes en train de déplorer ces jours. Lorsque un tel incident survient, vous connaissez des cas de licenciement sans préavis par le passé, lorsqu'une complicité, même indirecte, a été décelé au niveau de la SNCC. Dehors de la SNCC, vous remarquerez que sur nos chantiers, il y a souvent nos OPJ qui font les rapports et les transmettent au parquet pour des poursuites éventuelles.
On enchaîne avec le Nord Kivu où deux positions des FARDC ont été attaquées la nuit dernière par des Maïmaï à Kisalala dans le territoire de Beni et au quartier Wayene dans la ville voisine de Butembo. Des sources militaires affirment qu'aucun mort n'a été déploré. Le récit de Grévis Salomon.
Les deux attaques ont été simultanément menées à 23h, heure locale. Des Maïmaï, identifiés comme fidèles au leader milicier Baraka, ont lancé une attaque contre la position militaire de Kisalala, située à une dizaine de kilomètres au nord de Boutembo. Les militaires FARDC ont vite réagi à l'attaque et repoussé ces miliciens, a indiqué le colonel Mosebo Epape Masebi, commandant des FARDC dans la ville de Boutembo. Notre source affirme qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée de part et d'autre. Par ailleurs, un autre groupe de Maïmaï jusque-là non identifié a tenté d'attaquer la position militaire se trouvant à Wayene, écarté de la ville de Boutembo, située à la limite avec la chefferie de Bachou. Les commandants urbains des FARDC indiquent que ces hommes avaient identifié la menace avant de concrétiser leur plan. Là encore, aucune perte à vie humaine n'a été enregistrée, indique notre source. Disons que le porte-parole des opérations Sokola 1 a, dans une déclaration faite à Radio Okapi cette semaine, exprimé son inquiétude face à l'activisme des groupes Maïmaï contre les positions militaires ces derniers jours. Boutembo, Grévis, Saloumou, Radio Okapi.
Non loin de là, en Ituri, des rebelles ougandais de la DEF ont attaqué hier soir le village de Kabrike, proche de Ndalia, dans les territoires d'Irumu. Le bilan provisoire dressé par la société civile de Walese Vonkutu fait état de 5 morts, dont 2 femmes, et l'incendie de plusieurs maisons. Certains habitants de la zone, qui commençaient à regagner le milieu, ont fui vers Luna, à la limite avec la province voisine du Nord Kivu. Abounia, Clarisse Zindula.
Ces rebelles des ADF ont fait incursion en tirant des coups de feu dans le village de Kabrike, situé à une dizaine de kilomètres du centre de Ndalia, dans la chefferie de Walese Vonkutu, au sud du territoire d'Irumu. Selon la société civile de la place, les tirs nourris ont duré pendant une trentaine de minutes. Le secrétaire de cette structure citoyenne précise que 5 civils, dont 2 femmes, ont été atteints par balles et sont morts sur place. Un homme a été grièvement blessé et 4 maisons incendiées. Dudoné Malangai indique que ce bilan est encore provisoire en attendant les résultats des investigations, car la zone est encore inaccessible à cause de l'insécurité. Des centaines de familles qui avaient déjà regagné la localité de Ndalia et sa périphérie ont vidé la zone. La plupart de ces personnes ont trouvé refuge au centre de Luna, à la limite avec la province voisine du Nord Kivu. Pour rappel, cette localité a été la cible d'attaque il y a environ un mois. Bounia, Clarisse Zindoula, Radio Okapi.
Notez que plus de 80 miliciens ont été neutralisés, 60 autres capturés et une vingtaine d'armes récupérées. C'est le bilan des opérations militaires menées contre les miliciens de la CODECO et les rebelles ougandais de la DEF dans les territoires d'Irumu et une partie de Djougou, annonce le porte-parole des FARDC en Ituri. Il ajoute que plus de 5 villages qui étaient occupés auparavant par ces malfrats sont désormais sous le contrôle des FARDC.
Actualité internationale.
Au Rwanda, le parquet a annoncé ce mercredi avoir fait appel de la condamnation à 25 ans de prison ferme pour Paul Rusesabagina, cet ancien hôtelier dont l'histoire a inspiré le film dénommé Hôtel Rwanda et devenu un féroce critique du président Paul Kagame. Le ministère public fait appel des décisions prononcées en septembre dernier contre lui et ses 20 coprévenus. Le porte-parole du parquet rwandais, Faustin Nkoussi, affirme également que Rusesabagina a été reconnu coupable d'avoir fondé et d'appartenir au Front de Libération Nationale, un groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. En Russie, pendant ces temps, le président Vladimir Poutine a ordonné ce mercredi après-midi une semaine de congés payés pour tenter de juguler la vague épidémique meurtrière du coronavirus qui secoue le pays. Il soutient la proposition de déclarer la période du 30 octobre au 7 novembre prochain comme chômée avant d'implorer les récalcitrants à se faire vacciner au plus vite. S'il vous plaît, soyez responsables, dit-il.
L'invité.
Notre invité, c'est la coordonnatrice du réseau des femmes citoyennes engagées de Beni au Nord Kivu. Maître Douti Diane Ntumba revient sur la journée internationale de la femme rurale célébrée le 15 octobre. Il s'entretient avec André Kitenge.
Maître Douti Diane Ntumba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la coordonnatrice du réseau femmes citoyennes engagées, Béniville et territoire. Chaque année, le 15 octobre, le monde célèbre la journée internationale de la femme rurale. Nous sommes à Béni. Quelle est la place que vous donnez aujourd'hui à la femme rurale de Béni.
Oui, merci pour la parole nous accorder. Vous allez comprendre que cette femme rurale de la ville de Béni est marginalisée compte tenu de la situation qu'elle traverse actuellement dans la ville et territoire de Béni. Elle traverse une situation qui est du tout critique, qui ne permet pas que cette femme émerge dans ses activités champêtres. Vous allez constater que même le milieu où elle a l'habitude d'aller planter, et récolter et vendre même, c'est tout à fait difficile actuellement. Cette femme, vraiment, de ma part, moi je peux dire qu'elle compte beaucoup à la restauration de la paix pour que ses activités émergent plus.
Alors, cette journée vous rappelle quoi ?
La journée d'aujourd'hui, pour moi, ça me rappelle cette belle et bonne femme qui était libre dans ses activités avant, qui avait le droit d'aller et revenir dans ses champs pour s'aimer, récolter librement ses semences. Mais aussi, ce sont nos grands-mères, nos grands-parents qui faisaient ça et on mangeait bien nos récoltes de nos grands-mères. Mais vous allez constater qu'aujourd'hui, c'est foutu. C'est tout à fait difficile que nos grands-mères nous ramènent ce qui nous amenait avant.
Aujourd'hui, les femmes des zones rurales sont confrontées à des contraintes pour s'engager dans des activités économiques en raison de tout ce qu'on connaît, la situation sécuritaire, la discrimination et des normes sociales fondées sur le sexe et leur participation à des travaux non rémunérés et l'inégalité d'accès à l'éducation. Madame, que faudra-t-il aujourd'hui pour que cette femme-là puisse quitter cet état des choses ?
Cette femme doit être d'abord acceptée dans la société et aussi faire appliquer la parité pour cette femme. Cette femme a droit à l'éducation, cette femme a droit au commerce, aux activités et aussi à la participation de la chose publique. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup à faire avec cette femme aujourd'hui qui est dans son coin en train de pleurer, mais aussi la motivation du gouvernement et d'autres partenaires comme la MONUSCO compte plus pour cette femme dans son émergence. Donc cette femme ne doit pas être délaissée. Elle a droit, comme tout le monde, elle a droit à l'éducation, elle a droit à la participation à la chose publique. Donc cette femme mérite l'encadrement spécial.
Quel appel lancez-vous à toutes ces femmes rurales en ces jours d'aujourd'hui, le 15 octobre ?
J'ai dit courage à toutes ces femmes et j'ai leur demande de ne pas baisser les bras. Le monde est pour nous, la vie c'est nous. Nous méritons plus et que nous excellons dans ce que nous faisons étant femmes rurales. Que tout ce que nous traversons ne nous fragilise pas. Le pays a besoin de nous. Le Congo c'est notre pays. Et nous demandons au gouvernement que cette femme ne compte qu'à la restauration de la paix. Nous demandons à la MONUSCO l'appui à cette femme rurale, à la protection de cette femme, à l'émergence de cette femme, pour que cette femme recouvre ce qu'elle a longtemps perdu.
Madame Toudi Toumba, je vous remercie.
Je vous remercie aussi, Radio Okapi.
C'était l'invité de Radio Okapi, la coordonnatrice du réseau des femmes citoyennes engagées de Béni dans la province du Nord Kivu. Maître Toudi Diané Toumba est revenu sur les acquis de la journée internationale La Femme Rurale célébrée le 15 octobre dernier et s'entretenait avec André Kitenge. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Noël Alouzi Toukabambi et Élisée Chikota Mwamboui, Martin Sabou-Djangwe qui m'ont accompagné. Retrouvez ce journal sur www.radiokapi.net.